Bonsoir, bienvenue dans le monde merveilleux de Rock'n'Roll Diaries avec une première aujourd'hui car cette émission est en direct de nos studios, Place au Blé. Bonjour Luc.
Bonjour à tous, bonjour Ludovic.
Alors Luc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui on va répondre à cette grande question philosophique, y a-t-il de la vie sur Mars ?
Bonjour Fabien.
Et bonjour.
Alors aujourd'hui nous avons un nouveau stagiaire qui, comme Fabien avant lui, paye pour participer à l'émission. Bonjour David.
Bonsoir Ludo, bonsoir à tous.
Alors David, nous t'avons choisi car tu es un dinosaure du rock. En effet, tu aimes Gala et Black Box.
Ah oui, tout à fait, oui.
Black Box, de la grande poésie devant l'éternel.
Ouais, les années 90, un grand moment.
Pom Pom the Volume.
Oula.
Pump Bell Up.
Oula.
Alors comme David n'est pas vraiment un prénom musical, il n'y a pas beaucoup d'artistes et de chanteurs qui se prénomment David, peut-on t'appeler Dave durant cette émission ?
S'il te plaît, oui, merci.
Bon Luc, explique-nous la mission de Dave ce soir.
Ouvrir les bières, principalement.
Alors pour une fois, nous allons parler d'un chanteur qui est encore en vie, ce qui me pousse à rendre hommage à un chanteur qui nous a quittés il y a peu, Luc.
David, nous avons parlé de David Bowie, mais avant, je voudrais quand même qu'on rende un petit hommage à Adam Yoche, qui était un des fondateurs du groupe de hip-hop new-yorkais, les Beastie Boys, voilà, qui nous a quittés il y a quelques jours à peine.
Il y a le chanteur des Bee Gees aussi.
Oui, mais non, on va pas en parler.
Et juste en hommage au chanteur des Bee Gees,
on va ouvrir, voilà, un Fanta.
Non, c'est un Oasis.
C'est un Oasis. Il y a aussi Houston que Dave a vu à la Feria de Palavas il n'y a pas longtemps.
Il y a 2 ans, exactement, oui.
Mais aujourd'hui, David Bowie, Luc.
Oui, David Bowie, de son vrai nom, David Robert Jones, qui est un chanteur anglais. Né en 1947 à Brixton, dans le quartier de Brixton à Londres. David Bowie, on va voir qu'une partie de sa carrière aujourd'hui, celle qui va à peu près de ses débuts jusqu'à Ziggy Stardust, son album un peu événement, qui va marquer un tournant dans l'histoire de la musique aussi. Et puis après, on verra très vite fait le reste de sa carrière qui est pas toujours palpitant.
Oui, après, c'est pas terrible.
Alors David Bowie, il est né en 47 à Londres. C'est le fils de Peggy, qui est sa maman, installée à Londres. Il va vivre avec
Peggy, qui est le fils de sa maman. Dave, tu remarques quand même.
Oui,
Peggy,
c'est un autre, mais bon.
Il va vivre avec son père et sa mère. Et surtout son demi-frère qui s'appelle Terry et qui va avoir une grosse influence sur lui, notamment au niveau, c'est lui qui va l'initier à beaucoup de styles musicaux littéraires qui vont un peu forger le caractère artistique du jeune David. Mais ce frère là qui aura aussi donc cette grosse influence sur David. Va rentrer de l'armée et de son voyage à l'US Air, dans la Royal Air Force, malade puisqu'il est atteint de schizophrénie. Et cette maladie de son frère va aussi se retrouver très très souvent dans l'œuvre de David Bowie et dans toute sa carrière musicale. Il faut savoir que Terry, son grand frère, c'est lui qui va l'amener voir ses premiers concerts, c'est lui qui va l'initier à la littérature de la Beat Generation, des gens comme Kerouac, comme William Burroughs, le philosophe Friedrich Nietzsche, et aussi sur les travaux d'un auteur sur la liberté sexuelle. C'est ce qui va un peu déterminer le début de la vie de David Bowie, de son adolescence, suivi par ce frère. Mais il y a eu un moment où David Bowie, il a quand même craint un peu par rapport à la maladie de son frère et tous les problèmes qu'il a pu avoir dans sa famille. À une époque, il a dit « On se met en danger en essayant d'éviter les menaces de la folie. On commence à approcher de ce qui nous fait le plus peur. Il y avait trop de suicides dans ma famille, à mon goût. Aussi longtemps que je pourrais rejeter ces excès psychologiques dans ma musique, je pourrais y échapper. » Voilà.
C'est une thérapie.
C'était une sorte de thérapie. Il faut savoir aussi que le premier morceau musical qui a marqué le jeune David à l'âge de 9 ans, c'était Tutti Frutti de Little Richard.
Un grand fan de Little Richard, de David Bowie.
Exactement, et qui dira plus tard « Mon cœur a presque fondu d'excitation. Tutti Frutti remplissait la chambre d'énergie et de couleurs et d'outrages irrévérencieux. C'était Dieu que j'entendais.
Ouais. » Rien que ça.
Ça, c'est quand même de l'influence. Musicalement, David Bowie, après, il va tenter sa chance un peu dans le London de la fin des années 60. Avec beaucoup de groupes dans lesquels il chantait, jouait du saxo, de pas mal de trucs. Pas mal de groupes de rhythm and blues aussi. Mais David Bowie, une chose dont on est à peu près sûr, c'est que c'est pas un homme à groupe. Finalement, il va s'en apercevoir assez tôt. Et vers 16 ans, il signe un premier contrat dans une petite maison de disques qui s'appelait Decca Records. Mais c'est pas non plus le début véritablement de sa carrière. Il va faire quelques petits trucs un peu à droite à gauche, soit avec des groupes, soit tout seul. Il est finalement repéré en 66 par un manager qui s'appelle Ken Pitt. Un jour où il reprenait une chanson qui s'appelle You'll Never Walk Alone, que les fans de football connaissent bien.
Ah, bien sûr, oui, oui. Ah,
n'est-ce
oui.
pas, Dave
oui.
Ta chanson. Chant
mythique.
Ah, Liverpool. Et quel club ?
Le Celtic.
Glasgow.
Ah, Celtic Glasgow, exact. Ouais. Ah, oui.
Et qui l'a chanté aussi ? Et qui en a fait un tube dans les années 60 ?
Jerry et les Pacemakers.
Ah, ouais. Je ne connais pas.
C'est un sous-Beatles.
C'est un peu un sous-Beatles. La première chose que va faire David Bowie, qui va vraiment marcher, son premier single, c'est un truc un peu particulier, qui s'appelle Space Oddity. Qui va être le premier morceau qui va révéler le jeune David, Fabien.
Oui, Space Oddity, qui avait été inspiré un petit peu par 2001, l'Odyssée de l'espace, un film de Kubrick. On verra tout à l'heure que, de toute façon, David Bowie a été très inspiré par Kubrick, par Orange Mécanique, notamment au niveau des tenues, sur la façon de se mettre en scène, tout ça. Et donc, il a écrit cette chanson qui est un peu naïve au niveau des paroles. Hein. C'est pas un grand écrivain de chansons, c'est surtout beau musicalement, c'est une petite symphonie. Et la chance qu'il a, pour la première fois, il va être en phase avec son temps. C'est-à-dire que jusque-là, comme le disait Luc, il tâte un peu le terrain, un peu partout. Il a des groupes à droite, à gauche, il fait des 45 tours qui ne marchent pas, aucun, il change de groupe, etc. Et il suit la mode, il suit les Beatles, mais avec 3 ans de retard. Par exemple, son premier album solo, il sort le jour où sort Sgt. Pepper. Donc bon, autant dire que c'est une claque pour lui, il y a rien à faire quoi. Il peut pas suivre le rythme. Et là, pour la première fois, donc on est en 69, il enregistre ça en juin. Et il se trouve qu'en juillet 69, il se passe quelque chose, c'est que l'homme pose le pied sur la lune pour la première fois, c'est retransmis en direct à la télévision et pour les chaînes britanniques. C'est sa chanson qui va illustrer ce voyage dans l'espace, Space Oddity. Et donc là, il trouve un écho mondial pour la première fois. Donc c'est un tube, son premier, qu'on va écouter maintenant.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet. Tom.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lift off.
Alors voilà pour cette première chanson. Nous tenons par ailleurs à dire que nous avons un petit problème avec le stagiaire qui ne sait pas ouvrir les bières avec un briquet.
Non, il n'y a pas de tire-bouchon, moi je ne sais pas ouvrir autre chose. Voilà. Hein ?
Et ouais.
Il y a un problème, oui, c'est vrai.
Alors,
oui.
Peut-être qu'on aura un autre stagiaire la prochaine fois. D'ailleurs, on a lancé un jeu sur Facebook. C'est lui qui a lancé ce jeu, qui en a eu l'idée, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est que la première personne qui vient et qui monte sa poitrine dénudée à la vitrine de la radio gagne la possibilité de participer au prochain enregistrement avec nous.
C'est une première, d'ailleurs. Hein.
Ouais, c'est
une
première.
Je tiens à dire que je ne l'ai pas fait avant. Hein.
On va voir.
On va dire que Dave n'a pas montré aucune partie de son corps. Il a juste gagné un concours de air guitar contre Thierry L.
On en aura une première si quelqu'un le fait. Hein,
quand même. Oui. Et attention, on pense qu'il y aura du monde, donc dépêchez-vous de venir.
Pour revenir à David Bowie, il y a une version française de cette chanson Space Oddity qui existe de monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Pelapra, qui est assez poétique d'ailleurs et plutôt sympa. Donc, si vous avez l'occasion de la trouver, ce qui est pas facile, je vous la conseille.
Voilà, c'est ça a quand même eu un peu moins de succès que la version originale Space Oddity, qui donc à l'époque en 69. Est un bon carton, le premier de Bowie. Alors, à l'époque, il ressemble à quoi ? Parce qu'on va voir que le look, c'est important. Il a les cheveux longs et frisés, un petit peu. Donc, il est passé par la phase mode dans les années 60. Donc, le dandy bien habillé, il faut tant de boutons à telle poche, etc. Puis, par la phase hippie débraillée. Là, il se cherche encore. Donc, il a les cheveux frisés. Donc, la phase d'après, c'est « je me laisse les cheveux longs ». Mais lisse et je deviens une fille, donc il porte des robes tout simplement, et c'est ce qu'il fera dans son prochain album qui s'appelle The Man Who Sold the World.
Il est
comme la chanson. Hein. Voilà, il est et d'ailleurs la pochette a choqué aux États-Unis un petit peu parce que bon, un homme déguisé en femme, surtout que lui il considère que c'est pas un déguisement, hein, que c'est sa vraie tenue du jour. Voilà, l'album a eu du mal à sortir aux États-Unis, mais de toute façon, même en Angleterre où il est sorti, finalement c'était pas un succès. Donc il a pas transformé l'essai, hein. Un petit peu c'est son problème là. Il avait un plan qui était bien en place et The Man Who Sold the World c'est un petit échec. Alors pourquoi ? Parce que finalement, il se cherche encore. Là, il est dans sa période un peu heavy metal. C'est les débuts du hard rock, avec Led Zeppelin, avec Black Sabbath, tout ça. Il imite, il se contente d'imiter.
Voilà, j'allais te demander un petit débat dans cette émission. David Bowie, est-il un suiveur ou est-il un précurseur de...
Alors justement, jusqu'ici, c'est vraiment un suiveur. Dans les années 60, il fait de la pop, on l'a dit. Il a fait du rhythm and blues, ce genre de choses. Là, il fait du heavy metal parce qu'il croit que ça va prendre quand il le fait lui et aussi bien que Jeff Beck, mais ça marche pas. Justement, après, on va voir avec Luc qu'il passe de suiveur à leader, tout simplement. C'est lui qui va créer les modes, c'est lui qui va être en avance sur son temps. Mais là, jusqu'ici, il s'influence de Syd Barrett, notamment, de la première version de Pink Floyd. Il s'influence aussi pour les idées, le décorum, tout ça, d'Andy Warhol. Il s'influence des Beatles pour les mélodies, il s'influence de Jacques Brel pour la présence scénique, il s'influence de Lindsay Kemp, qui est un mime, en fait, pour le jeu de scène encore, un peu théâtral.
Il s'influence d'Olivier Giroud pour le jeu de tête.
Voilà.
Ah oui.
Notamment...
Il a plein d'apprentissages finalement. Quoi.
Oui, oui, non. Mais, et puis lui aussi a été champion de France de Ligue 1 en 1970, je crois.
C'était ça.
Ouais, c'était ça.
Il va même jusqu'à l'imitation quasiment pure et simple. Il y a des morceaux de... où il imite, c'est carrément la voix de Bob Dylan finalement. C'est, on dirait vraiment un imitateur, ça, c'est un peu le Nicolas Cantelou de la musique.
Oui, voilà. Ou le Romain aux oreilles du football. Quoi, voilà. Ouais.
Et donc il imite, et qui dit imitation dit reprise aussi. Donc, bon, alors, les années 60, c'est souvent des reprises. Hein. Ceux qui n'écrivent pas leurs propres chansons, ils se contentent de reprendre celles qui marchent. Sauf que lui, plutôt que reprendre celles qui marchent, il fait quand même, il essaie de prendre des chansons pas connues en Angleterre ou aux États-Unis. Comme la version là qu'on va écouter d'Amsterdam de Jacques Brel. Alors il a découvert ça par la traduction de Mort Schumann qui avait fait tout un spectacle sur Jacques Brel traduit en anglais. Et lui, il est vraiment fan de Jacques Brel, donc il le reprend. Voilà, on va écouter une version d'Amsterdam par David Bowie.
In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor dies full of beer, full of cries in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born a
On a hot muggy moon by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish, throw it down by my side." And he wants all to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, ponties busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants, and the sluts that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, their bark and their virtue, their goodness all gone, for a few dirty coins, when he just can't go on. Throws his nose to the sky, instead of above, and he pisses like I cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam.
Voilà donc Amsterdam de Jacques Brel, repris par David Bowie.
Voilà, et alors, pour l'attention de nos stagiaires, non, Dave, Gala n'a pas repris Amsterdam.
Non, non.
Mais non.
Quelle déception.
Voilà, alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé jusqu'ici, quand même, c'est que David Bowie ne s'appelle pas David Bowie, et ça participe à son plan vers le succès. Il change de nom, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Donc, en fait, au début, il s'appelle David Jones. Pourquoi change-t-il en Bowie ? Bah, pour avoir du succès. Alors, comprenne qui pourra, hein, en quoi de s'appeler Bowie va donner du succès. Et Bowie, ça veut dire quoi ? Bowie, ça vient de Bowie Knife, donc c'est un couteau qui est assez long, tout simplement. Donc, ça dit la prétention de l'homme. Et Bowie, c'est aussi le héros de la bataille d'Alamo.
C'est un rapport phallique, est-ce qu'il a... c'est ça ?
Bah, peut-être un rapport
non,
phallique,
ouais.
Faut savoir. Après, est-ce qu'Alamo, il est fasciné par la bataille d'Alamo ? On ne sait pas. En fait, ça sonne bien, sans doute, c'est juste ça.
Ça ressemble au personnage, en tout cas.
Voilà, ça ressemble au personnage. Et donc là, tout se met en place. Il a le nom, il commençait à avoir du succès, et ce qui va arriver, comme prévu, c'est le succès, parce que le prochain album, c'est Inkidori, et ça veut dire comme prévu, Luc.
Oui, alors il faut savoir qu'en matière de succès, celui qui a le vrai nom de David Jones... c'est le chanteur des Monkees, un vrai boys band américain qui à l'époque tourne à fond, qui a même sa série télé. Donc du coup, David Jones, il s'est dit, on va faire David Bowie, ce sera mieux. Et effectivement, il se lance dans cette aventure qui est Inkidori. Il va d'abord, encore une fois, avoir beaucoup d'influence là-dessus. Et une personne qui va avoir énormément d'influence sur ce Inkidori, c'est son épouse, Angela Barnett, célèbre par une chanson des Rolling Stones, la fameuse Angie, de la chanson des Stones. C'est elle, la femme de David Bowie.
Intéressant.
Ah oui.
Vous savez pas ça.
Et qui va effectivement avoir... avoir beaucoup d'influence sur lui. Il s'entoure mieux aussi, David Bowie, parce qu'il prend un peu d'assurance, un peu de moelle, comme on dit.
Est-ce qu'il était reconnu à cette époque ? Est-ce qu'il avait commencé à percer ou il était encore...
C'est encore un peu compliqué pour lui. Il a encore, il y a son David Bowie d'où est extrait son album d'où est extrait Space Oddity. Qui lui a laissé cette petite reconnaissance, mais après il est vite retombé dans un anonymat. Il faut dire qu'à l'époque, ça allait à 200 à l'heure. Les albums sortaient tous les 6 mois, les meilleurs groupes sortaient des singles à tire-larigot. C'était compliqué de se faire une place.
Quelle était la fréquence de sortie d'albums de David Bowie?
Bon, cette période-là, c'est tous les 6 mois. À partir de là, c'est à peu près tous les 6 mois. Lui aussi, un peu comme les Beatles dans les années 60.
Il a suivi.
Ouais, lui, il a commencé à suivre. Mais bon, après, il n'a pas la présence médiatique que peuvent avoir les Beatles ou les autres. Il s'en tourne en moins de plusieurs personnes, notamment Tony Visconti et un guitariste qui s'appelle Mike Ronson. Il s'entoure d'eux déjà pour The Man Who Sold the World, qui commence à lui apporter une certaine stabilité à tous les niveaux, au niveau musical, au niveau un petit peu de sa création musicale. Et va sortir donc en 1971 Hunky Dory, son album qui va vraiment là pour le coup le révéler et vraiment le lancer. Pour celui-là,
c'est son troisième.
C'est son
officiellement son quatrième, parce qu'il y avait un album déjà qui est sorti donc en 67 qui s'appelait David Bowie, et celui qui est sorti sous le nom de Space Oddity s'appelait aussi David Bowie, mais selon qu'il est vendu en Angleterre, aux États-Unis, il changeait les noms. À l'époque, c'était pas très important.
On n'a pas dit d'où il venait, David Bowie.
Si, de Londres.
Ah, c'est un Anglais. Tu l'as dit.
C'est un Anglais.
Très bien. Je ne suivais pas.
Londres est en Angleterre.
C'est bien si t'écoutes pas ta propre émission.
Non, je n'étais pas attentif.
Tu n'étais pas en train de parler stade du Montpellier avec le stagiaire?
Non, du tout. Ouais. Du tout.
Okay. Du coin de l'œil.
On parlait du concours, je crois.
Ouais, oui, j'étais en train d'observer la ville.
On voit personne, d'ailleurs.
On voit personne, ouais. Non. On relance un appel.
Venez.
Il y a une super émission le mois prochain.
Viendez, on s'éclate.
Plus il fera chaud.
Ouais. Ken Scott arrive pour filer un petit coup de main à David Bowie. Ken Scott, c'est un ancien ingénieur des Beatles, un type qui a priori a un peu l'habitude du métier.
Ingénieur du son, je précise.
Oui, ingénieur du son, par contre. Qui va produire cet album Hunky Dory, qui est là aussi ponctué de tous les hommages que peut poser David Bowie à toutes ces glorieuses inspirations, Bob Dylan, Andy Warhol. C'est un album plus posé. Où Bowie, là, par contre, va commencer à utiliser tout ce qui est piano, arrangement, cordes. C'est vraiment ces instruments-là qui vont commencer à ressortir dans ces albums, un peu un album épopée, un peu comme le sera Ziggy Stardust derrière, des albums un peu plus envolés, un peu plus quasiment lyriques, en fait, comparé à ce qu'il a pu faire au départ avec toutes ces imitations, ces reprises et choses comme ça. C'est là où vont sortir des titres comme Changes, Life on Mars et Queen Beach, par exemple, influencé par le Velvet, et aussi beaucoup d'hommages à son frère, donc Terry Jones, son frère schizophrène. Et à partir de ce moment-là, David Bowie va commencer à lancer, et là pour le coup on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure avec Fabien, vraiment lancer un mouvement qui va être le mouvement glam, le glam rock. C'est les premiers accords de ce qui va devenir plus tard le glam rock et qui va entraîner avec lui toute une ribambelle de musiciens. Mais voilà. Mais avant ça, il y a cet album Hunky Dory qui sort en 1971 et dont on va peut-être écouter un premier morceau qui s'appelle Queen Beach.
Traduction, stagiaire.
La reine des plages. On the 11th floor and I'm watching the cruises below. Pardon. Oh, hearts in the basement, the weekends are all-time low. Like he's down on the street and he's trying hard to pose the flow. Oh, she's hoping to score while I can't see her letting it go. Look out of your heart, look out of your mind. She's all swishy and a slide in the tide, in a brown coat and bimbly bobbly hat. Oh God, I could do better than that. Oh, she's their old-time ambassador, a street-walking, night-walking gaze. And she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the days. Well, she says she can do it, and she can do it. We've seen her make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter, sucked in her brains. Now she's leaving them all to bury down.
hotel wall. Well, he's down on the street, so I throw both his bags down the hall, and I'm phoning the cab. My stomach feels small, there's a taste in my mouth, but there's no taste at all. It could have been me.
Alors, petite précision pour nos auditeurs, Queen Beach, qui n'est pas la reine des plages, mais la reine des salopes.
Oh non.
Désolé pour nos auditeurs, c'est David Bowie. D'ailleurs, une émission de Rock'n'Roll Diaries sans drogue n'en serait pas une. David Bowie, sa relation avec les drogues.
Alors, sa relation avec les drogues, elle est assez simple, finalement. Il prend tout ce qui passe. Voilà. Donc, il a pris beaucoup de drogues dures au moment où les gens prenaient des drogues dures. Beaucoup de drogues douces au moment où les gens prenaient des drogues douces. Donc, on va pas toutes les citer, hein, mais voilà. En gros, dans les années 60, il est plutôt LSD, herbe, etc. Après, ça se durcit avec cocaïne, héroïne. Et jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'il pèse une quarantaine de kilos au milieu des années 70. Donc.
42 kilos exactement en 1976.
Voilà, on ne sait plus le nom du docteur, mais ça, peu importe.
J'ai lu une interview de lui où il expliquait qu'il prenait de la drogue non pas pour se donner de l'inspiration, mais pour tenir, c'est-à-dire notamment la cocaïne et les amphétamines. Il expliquait que ça lui permettait de bosser 20 heures sur 24 à la place de 10 heures...
Voilà, mais c'est toujours assez amusant de voir toutes les raisons qu'on avance pour prendre des drogues, quand même.
Exactement.
On a toujours des bonnes raisons de prendre des drogues, bizarrement.
Un Dave.
Voilà.
Oui.
Merci, Dave.
Poursuivons.
Donc, voilà, là, on vient d'écouter Queen Beach, donc la reine des... Voilà,
des plages.
Alors, la reine des... c'est qui? C'était une version live à la BBC, en fait. Voilà, c'était pas la version de l'album, elle était un peu plus speed. Vous l'aurez reconnu pour ceux qui connaissaient déjà le morceau. Donc, ça parle de qui, selon vous?
La reine des plages?
Voilà, tout à fait. Donc, Lou Reed.
Lou Reed.
Lou Reed, qui, à l'époque...
C'est pas Miss Carnon 72?
Non. Alors, il a peut-être été, quand même.
Je crois, oui.
À la Grande Motte, avec Stone.
J'ai le dictionnaire du rock, là, peut-être.
Stone, c'est 73, par contre.
73, ouais. Chardon, quand il était avec Raël.
Oui.
C'était beau, ça, sur le Mont Lozère.
Voilà, donc, Lou Reed... gagnant des concours de plage. Alors pourquoi Lou Reed? Parce que tout simplement, il a été fan du Velvet Underground, comme beaucoup de gens à la fin des années 60 qui s'intéressaient aux musiques novatrices. Et qu'à ce moment-là, Lou Reed, c'est un peu une épave, quoi. Il est sorti du Velvet Underground fracassé, c'est même plus lui le chanteur, c'est Doug Yule, un parfait inconnu. Et c'est un peu David Bowie qui va le sortir du trou, parce que Lou Reed a sorti un premier album solo qui est une merde sans nom, avec de grandes chansons massacrées par lui-même. Et là, Bowie arrive. Bizarrement, Bowie n'est pas encore très connu, mais il séduit Lou Reed dans tous les sens du terme. Hein. Voilà, je vous laisse deviner.
Non, je ne peux pas deviner.
Non, on aimerait en savoir plus.
Ah, peut-être, Luc.
Ils ont des relations proches.
Ah, on a peut-être un premier.
Il va nous.
Oh, il le montre. Ça y est.
On a un gagnant.
On a un auditeur.
Bravo. Bravo, on aurait préféré une fille quand même.
J'ai peur que ce soit un amateur de Dick Rivers, on est dedans.
Bravo en tout cas, superbe.
C'est beau.
Merci,
au revoir.
Maintenant il faut amener une fille.
Reste parlant, on te fera parler après la prochaine chanson, le temps de faire un changement, de virer le stagiaire.
C'est un garçon par contre.
Ouais.
Donc voilà Lou Reed qui est au fond du trou, et Bowie le séduit, et Bowie arrive à le séduire au point qu'il va lui dire « Moi, je vais te faire un album du feu de Dieu, tu vas cartonner au niveau mondial, et je vais faire avec toi du glam », donc le mouvement qu'il est en train de lancer. Bon, il n'a pas baptisé lui-même comme ça, mais le glam, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est du rock'n'roll un peu basique, on l'a vu, avec des accords simples, énergiques, et à paillettes. Donc le glam, c'est glitter rock, l'autre nom, c'est le rock qui brille, on met du strass, des paillettes, voilà. On se déguise un peu en femme, on met du maquillage lourdingue et tout ça. Donc David Bowie enregistre avec Lou Reed, il lui file un coup de main, qui est Transformer, avec des grandes chansons comme Walk on the Wild Side, que tout le monde connaît, ou Satellite of Love.
Très bon album.
Il fait les chœurs dessus, il produit tout ça. Et c'est à cette époque-là où c'est vraiment un boulimique de travail, David Bowie. Donc non seulement il enregistre ses disques tous les 6 mois, mais donc il aide Lou Reed. Il va aussi produire Iggy Pop, qui est au fond du trou avec les Stooges. Ça sera l'album Repower qui produira. Il va aussi donner une de ses meilleures chansons, c'est quand même sympa de sa part, All the Young Dudes, à Mott the Hoople, qui est un groupe un peu phare du glam, qui est oublié aujourd'hui. Voilà, bref, il collabore vraiment de partout. Il va même chercher Lennon dans son week-end perdu.
De Los Angeles.
Voilà, de Los Angeles, pour enregistrer une chanson avec lui un peu plus tard. Il a tellement de chansons à donner que voilà, finalement, il va chercher du monde pour les faire avec eux. Et surtout, il les aide. Il les aide beaucoup en cela. Mais donc, en dehors des collaborations, il continue d'enregistrer, lui. Et alors, fin 71, donc, était sorti Enki Dory. Et mi-72 sort le prochain album, qui est quand même pas rien, vu que c'est Ziggy Stardust. On va en parler tout de suite après un morceau, encore un de Enki Dory, juste avant de basculer, qui s'appelle Life on Mars.
Ouais, qui va te faire plaisir, Ludo, si je ne m'abuse.
Absolument. On aura peut-être la réponse à ta question.
Life on Mars, avec un point d'interrogation.
La vie sur Mars ?
Y en a-t-il ?
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on the same girls fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on the sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
Voilà, et nous avons dans notre studio Jean-François qui a gagné notre concours pour la prochaine émission. On attendait Françoise, on a Jean-François. Bonjour Jean-François.
Vive Dick !
Et voilà, Dick Rivers peut-être pour une prochaine émission. Salut, à plus, merci, t'as gagné le droit d'être là. On vous dit pas quel artiste on parlera, mais...
Hey, yes.
S'il vous plaît, on se reconcentre. Luc.
Ouais,
non, c'est... Dave, tu as un mot à dire ?
Il aime vraiment Dick Rivers.
Ouais. Oui, oui.
Oui, mais il est bel homme.
Il est bel homme.
Ah,
il a de très beaux seins.
C'est vrai.
Changer le studio.
Dick Rivers, traduction, stagiaire ?
Baleine.
Baleine, ouais, c'est presque ça.
Pas mieux.
On va revenir à David Bowie.
On va revenir à David Bowie, cette année 1972, qui va un petit peu être la consécration de sa carrière, avec cet album extraordinaire, au-delà d'un album, une véritable épopée musicale. Qui s'appelle officiellement Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Magnifique accent anglais, vous remarquez. Hein.
Très beau.
Oui, on a critiqué mon accent anglais, alors je fais des efforts.
On a fini Ziggy Stardust, là ?
On a fini de dire le titre.
C'est bien d'écouter ton émission, encore une fois.
Pardon.
Qui suit vraiment de très près Hunky Dory, à tel point que beaucoup de gens ont l'impression que c'est le même moule, en fait. C'est la continuation.
Un diptyque.
La continuité.
Un diptyque, exactement, comme dit Fabien, qui aime bien employer des mots super compliqués.
Diptyque.
Moi, j'aimerais savoir qui a choisi les chansons de cet album.
Alors, pour Ziggy Stardust, les chansons que nous allons écouter, qui seront au nombre de deux, ont été choisies par Sandrine Morin.
Bravo, tout le monde a noté.
Voilà. Et donc, si vous avez des récriminations, faut les adresser à la radio qui transmettra. En attendant, Ziggy Stardust, ça raconte une histoire. L'histoire de qui ? L'histoire d'un alien échoué sur la Terre et qui au contact des terriens va perdre tout son héritage extraterrestre.
Et son drogue là aussi.
Alors, je vois pas du tout ce qui te fait dire ça, Dave.
Pas du tout. Moi, je vais boire une bière, tiens.
Ouais. Donc voilà, une nouvelle fois, hein, David Bowie va le créer à partir de plein d'influences. Le nom du personnage vient d'un chanteur de rockabilly texan qui s'appelait The Legendary Stardust Cowboy. David Bowie pense aussi à Vince Taylor, l'une de ses nombreuses influences, un rocker très maigre et sexy, vraiment. Vraiment abîmé des années 60, à qui il empruntera cette espèce de démarche un peu particulière qu'il avait sur ces concerts-là.
Et Ziggy, c'est un tailleur aussi à l'époque. Donc voilà, c'est encore l'image de la mode et des vêtements.
Et alors, oui, pour répondre à une future question de Dave, non, Ziggy n'a rien à voir avec celui de Céline Dion.
Michel Berger
à la base.
Ah, j'ai une culture quand même.
C'est vrai.
J'allais en parler pour prouver que je suis l'émission, mais non.
Bon, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, David Bowie et la drogue, c'est toujours un peu ça. Il est sous hallucinogène. Il va même déclarer à une époque qu'il était le messager du Christ. Il va dire « Je l'ai rencontré à plusieurs reprises au milieu des années 60. Le mec ne jouait pas avec une équipe au complet. »
Qui, le Christ ?
Voilà. Oui, c'est ça, le Christ.
Stagiaire, s'il te plaît. Nous sommes dans une émission sérieuse.
Voilà, une autre inspiration de Ziggy Stardust, c'est Gene Vincent et son célèbre Bebopalula.
She's my baby.
She's my baby.
Il était rock quand même.
Non, mais il était super rock en fait. Ça fait partie de toutes ces influences. C'est un album qui est particulier, hein, Ziggy Stardust, qui va un petit peu vampiriser David Bowie.
C'est un opéra rock, non ?
C'est une sorte d'opéra rock, oui. Ouais. Enfin, c'est un album concept, en tout cas, donc, où il se crée un personnage qui est un autre lui-même, mais qui viendrait d'une autre planète. Il se crée une musique qui est donc le glam, mais qui là est vraiment à son apogée. Il crée un décorum qui va avec, il crée l'histoire.
Il y a une BD, non, aussi qui...
Il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas d'éléments, en fait, qui participent. C'est un monde parallèle.
Ouais. David Bowie va même dire il y avait un sentiment très fort que plus rien n'était vrai, que l'avenir n'était pas aussi radieux qu'il semblait l'être jadis. Par conséquent, on n'avait rien à perdre. Si nous avions besoin de vérité, nous n'avions qu'à les construire. C'est un peu cet état d'esprit qui est dans Ziggy Stardust, qui va l'accaparer, hein, parce qu'il... c'est plus qu'un personnage qui va jouer sur scène. Il va vraiment le vivre de l'intérieur. Je joue sur ce personnage sur toute la ligne, va-t-il déclarer, à tel point que il va finir par tuer Ziggy. Ça se passe
le 5 juillet 1973,
exactement,
à Londres.
sur le théâtre, la scène de l'Hammersmith Odeon Theatre de Londres,
devant Elton John.
Devant tout un tas de monde qui ne s'attendait pas à le voir mourir. D'ailleurs, même ses propres musiciens n'étaient pas du tout au courant qu'il allait tuer son personnage à la fin. Et donc voilà, ils l'ont appris sur scène. Ils avaient une mine un peu dépitée qu'on peut voir dans le film du même nom, Ziggy Stardust, qui est sorti à l'époque et qui est ressorti sur les écrans 30 ans après en France notamment.
Grand acteur, voilà. On en parlera tout à l'heure.
Oui. Pour expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là, il a dit, je ne savais plus si je créais mes personnages ou si c'était eux qui me créaient ou si nous n'étions plus qu'un.
Androgyne.
Exact, voilà, c'est il est androgyne. D'ailleurs, sur sa vie, on a parlé de un peu de sa famille. Sur sa vie personnelle, il a même déclaré à une époque qu'il était gay, qu'il était en fait bisexuel avéré et assumé. David Bowie.
Histoire avec Mick Jagger.
Peut-être histoire avec Mick Jagger, peut-être histoire avec Lou Reed, peut-être histoire avec Iggy Pop,
peut-être histoire avec Carlos.
Non mais dans cette émission, il faut avoir des vérités, des certitudes, il n'y a pas de peut-être.
D'aucuns disent Joe Dassin. On les laisse dire.
On sait comment ça a fini en tout cas, pour Joe Dassin.
Pour Joe Dassin, oui, aussi. Voilà, donc c'est Ziggy meurt sur scène, quasiment... quasiment en direct finalement, c'est quasiment une vraie mise à mort d'un personnage qui va marquer un nouveau départ dans la carrière de David Bowie. Avant ça, on va peut-être écouter un extrait de Ziggy Stardust qui s'appelle Starman.
Voilà, il y a quatre fois le mot star dans les titres de Ziggy Stardust, ce qui dit aussi à quel point il avait fait une sorte de plan de communication énorme pour devenir une star mondiale.
Tant qu'il n'y a pas Starmania.
Starman qui a été choisi par Sandrine Morin.
Yeah.
Alors, je tiens un peu à balancer sur le stagiaire qui, pendant cette pause, a demandé qu'est-ce qu'était le glam, alors qu'on en a parlé. Je ne suis pas le seul à ne pas suivre.
Ouais, j'écoute Radio Totem dans les oreilles, dans les écouteurs, c'est pour ça.
Ah, c'est pour ça.
Excusez-moi, pardon.
On va écouter Luc, alors, plutôt.
Oui, et pour parler de la fin de Ziggy Stardust et ce fameux soir de 1973, où à la fin du concert, juste avant les rappels pour ce morceau qui s'appelle Rock'n'Roll Suicide et qui sera le dernier de l'existence de Ziggy Stardust, Bowie a dit « Ce n'est pas seulement le dernier concert de la tournée, mais c'est notre dernier concert tout court. Au revoir. Nous vous aimons », a-t-il dit devant un public stupéfait.
Et il avait 26 ans.
Voilà, exactement. Bah, tu suis, en fait.
Bien sûr, en plus, tu sais compter.
Oui, 47 et 26, 73.
Non, bravo.
Est-ce que tu connais les traductions de chansons de Fabien ? On n'a pas eu encore.
Voilà, il y a toujours un passage dans l'émission où, souvent c'est un peu moqueur. Du coup, je traduis en français les paroles de nos chanteurs préférés. Donc là, c'était pour dire finalement qu'il disait parfois des choses plus intéressantes sur scène que dans ses propres chansons. Quelques exemples. Donc, Zen, 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 ouvre le chien. Donc, The Wish of a Circle. Dansons, mets tes chaussures rouges et danse le blues. Celle-là, tout le monde la connaît, hein, Let's Dance.
Bah oui.
C'est le retour du maigre duc blanc qui jette des fléchettes dans les yeux des amants. Alors là, bon, il y a une rime quand même,
oui.
Donc, pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a presque un sens.
Oui, mais le Thin White Duke, c'est quand même un surnom qu'il a poursuivi quelque temps.
Le quoi, Luc ?
C'est vrai. Thin White
maigre duc blanc. Voilà.
Alors,
une dernière pour la route, un peu plus longue, mais voilà, on va en débattre après, hein, peut-être d'ailleurs. Épatant vison, remballé luminescent, renard argenté, maintenant chaufferette pour les pieds, chaufferette au pluriel. Hein. Une collection de broches en saphir et en émeraude éclatées, quand vous voulez, c'est l'année des chiens de diamant. Diamond Dogs.
Apparemment, il avait des trucs à vendre.
Très beau.
La drogue.
Ce qui a fait dire au grand critique rock Lester Banks que Bowie écrivait des chansons de merde. Il n'avait pas tout à fait tort au niveau des textes, mais bon, voilà.
Mais musicalement, c'était très,
musicalement,
très fort.
C'était génial. Très fort. Et Bowie était conscient lui-même d'ailleurs de la faiblesse de ses textes. Hein. Pour lui, c'était juste des textes. Il lui fallait des textes pour ses chansons. Bah, il écrivait un truc et puis voilà, si ça sonnait bien.
On peut pas dire que David Bowie était le plus grand songwriter de l'histoire du rock'n'roll, effectivement, oui.
D'ailleurs, dans le classement du magazine Rolling Stone des 500 plus grands albums de tous les temps, Ziggy Stardust est classé 35e.
Oui, ce qui veut à la fois tout et rien dire, parce que 35e, franchement, c'est une place un peu bâtarde.
Sur 500,
oui,
c'est
ça
pas
vaut
mal.
Un titre de champion.
Ouais, enfin, c'est pas Sgt. Pepper, quoi.
C'est
ça mériterait peut-être dans les 10 premiers, je sais pas, enfin, Luc.
Après, les goûts et les couleurs...
Qui est premier plutôt, d'ailleurs ?
Qui est Michel Berger, je crois.
C'est Michel Berger.
Ziggy. Ouais.
C'était lui ou Ricoun ?
On ne parle pas des groupes ni moi ici, s'il te plaît.
Ni d'alcool.
Pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, donc Ricoun.
Bon, Ricoun, quand même.
Ricoun a essayé le glam rock, mais ça n'a pas marché.
Alors, pas du tout. L'abeille sur scène n'a pas pris.
En revanche, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont essayé le glam rock. Alors en France, il y a vraiment eu quelques-uns, genre Joe Bryant, tout ça, des gens que personne ne connaît à l'heure actuelle. Mais bon, c'est pas grave, ils ont essayé, c'était plutôt pas mal. Mais en Angleterre, c'était quelque chose de phénoménal. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point aujourd'hui c'était phénoménal. Par exemple, il y avait un groupe qui s'appelait T-Rex, de Mark Bolan, un des grands, grands, grands amis de David Bowie. Et on a baptisé un mouvement donc en 72-73 T-Rex-tasy, un peu sur le modèle de la Beatlemania, parce que les ventes de T-Rex à cette époque-là étaient aussi grosses que celles des Beatles. Donc c'était quelque chose de vraiment phénoménal. Et David Bowie était un peu le fer de lance en vendant moins de disques. Il était très reconnu par la critique, très reconnu des connaisseurs finalement, et c'était T-Rex qui attirait le succès dans les ventes de disques. Il y en a un autre qui marchait beaucoup dans le glam rock, il s'appelle Gary Glitter, lui il faisait purement de la merde, c'était uniquement commercial, c'était nul, mais ça vendait des caisses, et résultat aujourd'hui il est en prison pour pédophilie, même si ça n'a rien à voir je crois. Il y avait d'autres groupes comme Slade aussi, on peut considérer que les premiers Queen sont un peu glam rock, on peut considérer que Elton John a fait du glam rock...
Joël Batz,
avec sa coupe de cheveux.
Oui, il a fait un très beau morceau glam.
Dominique Rocheteau, oui.
Excellent. Enfin, les footeux aiment bien le glam rock, en fait. Surtout les Saint-Etienne, je pense.
Les Verts,
mais ils étaient en retard, 4 ans de retard à la fin des années
76,
60.
Non
76, ouais. C'est en retard. Parce que
le maillot Manu France était glam rock.
Oui.
Flashy, glitter, brillant. Voilà. Mais à l'époque, le glam rock, c'est quelque chose de... c'est la musique dominante, finalement.
Roxy Music.
Roxy Music aussi, avec Brian Ferry, qui est un autre dandy, un peu comme David Bowie, mais en plus séducteur de femmes, lui, il n'y a pas d'ambiguïté sexuelle.
Ah, c'est le grand dandy de l'histoire du rock.
Voilà, c'est vraiment le grand dandy.
Il y a des groupes comme les New York Dolls ont tenté une petite incursion avec...
Ça sera d'ailleurs des précurseurs du punk, la version américaine du glam. Et donc, en fait, Ziggy David Bowie, en tuant son personnage, il tue un peu le glam rock. Parce que du jour au lendemain, lui, c'est le leader, et il dit, hop, c'est fini de rigoler, les gars. Et ça tue un peu le mouvement. Donc il y a quelques disques qui vont encore marcher, mais ça va vite basculer sur autre chose. Parce que lui-même bascule. Donc on va écouter un morceau qui est dans Aladdin Sane, qui est l'album qui suit, où il est encore un peu grimé comme Ziggy Stardust. Mais il y a déjà quelque chose de nouveau qui ne ressemble pas à la musique de l'époque, plus théâtralisée, qui s'inspire du cabaret allemand, ce genre de choses. Et donc, on va écouter une chanson qui s'appelle Time et qui est très belle.
Time is waiting in the wings. It speaks of senseless things. His script is you and me. Boy, time reflexes like a whore, falls wanking to the floor. His script is you and me. Boy, time. Regurgitating dream, incestuous and vain, and many other last names. You know I look at the watch as it's 9:25 and I think, oh God, I'm still alive. We should be on by now. We should be on by now. Not a victim. You just scream with boredom. You are not evicting time. Left your coat behind, take your time. Breaking up is hard, but keeping dark is hateful. I had so many dreams, I made so many breakthroughs. But to my love of kind, your love would feel but dreamless, and the door to dreams was closed. Your path was real green. Perhaps you're smiling now, smiling through this darkness. But all I had to give was the guilt for dreaming.
Bah alors pour les auditeurs qui, comme Dave, ne savent pas, David Bowie n'est pas mort.
Pas vraiment. Enfin, pas officiellement. Enfin,
pas officiellement.
Il aurait peut-être dû.
Il aurait peut-être dû, c'est un débat ouais, qu'on a déjà eu.
C'est un grand débat Luc. Qu'on a eu. Lui-même a eu, non pas sur sa mort, mais sur la suite de sa carrière, s'est même posé la question s'il n'aurait pas mieux fait de rien faire et de la fermer pendant 10 ans, finalement, parce que la suite de sa carrière, c'est quand même pas le top. On peut dire que l'apogée de la carrière de David Bowie, c'est Ziggy Stardust.
Une nuance près, quand même, c'est là, ce qui suit Ziggy Stardust, ça va jusqu'en 80. C'est différent, mais ça reste génial.
C'est vrai que c'est différent. Après les années 80, bah il a refait du David Bowie du début, c'est-à-dire qu'il n'a pas été précurseur, il a été suiveur.
Let's Dance, on n'aime pas beaucoup, mais c'est son album qui est le plus vendu.
C'est le seul album qui s'est très très bien vendu, d'ailleurs, de David Bowie, qui ne vendait pas tant que ça, encore une fois, qui était une star mondiale, que tout le monde connaissait de visage, de nom, mais il y a plein de gens qui sont infoutus de donner le titre d'une chanson aujourd'hui de David Bowie.
Bien sûr.
Alors que Johnny Hallyday, oui, facilement, ouais. Quoi, par exemple. Voilà.
En France, du
Satisfaction.
Moins.
Oh
non, dans le monde.
Après, quand les gens aiment Black Box et Gala, ouais. Let's Dance, c'est fabuleux.
On ne s'étonne plus de rien.
Ah oui, c'est de loin.
Part de loin.
Free From Desire.
David Bowie, on continue après. Après...
Non, moi, c'est Ludovic.
Pardon. Après Ziggy.
La ressemblance est frappante.
Oui, surtout son époque androgyne.
Ouais, c'est pas un compliment quand même.
Après Ziggy Stardust, il y a une période qui est effectivement, comme tu le disais, Fabien, qui est encore intéressante, c'est la période de la trilogie berlinoise, avec notamment des titres comme Heroes.
Oui, il est parti des États-Unis pour aller vivre à Berlin. Donc il a expliqué que c'était pour fuir la drogue, tout ça, alors qu'en fait c'était pour changer de drogue.
Ouais, c'était pour changer de drogue.
Parce que Berlin, à cette époque, il vivait avec Iggy Pop d'ailleurs.
Oui, et tout près du mur. Il a enregistré tout près du mur sa trilogie berlinoise, avec quelques dérives fascisantes, vu qu'il était un peu fasciné par tout ce qui était décorum, Troisième Reich, du culte de la personnalité, tout ça. Mais bon, ça peut se comprendre, vu à quel point il était un peu orgueilleux, prétentieux, ce genre de choses.
Et là où il avait le nez fin aussi, c'est qu'il a produit Iggy Pop quand personne ne voulait le produire, et avec un excellent album.
Encore une fois, oui, il a sorti du trou à nouveau à la fin des années 70 avec Lust for Life et The Idiot. Et après, ce qu'on verra dans les années 80, c'est que c'est l'inverse. C'est Iggy Pop qui est venu le sortir du trou, en tout cas du trou musical dans lequel il se trouvait, avec China Girl, même si ce n'est pas une réussite. Au moins, financièrement, c'était un bon coup.
Oui. Ces années 80, après, c'est les années MTV, un peu. Hein, où il va néanmoins participer à la production de la composition et la production d'Under Pressure de Queen.
Qui n'est pas une bonne idée non plus.
Pas une bonne idée, mais qui a quand même pas mal
marché.
Dancing in
the Streets avec Mick Jagger, pas une bonne idée non plus.
Non, avec un clip extraordinaire. Oh là là.
Let's Dance en 83.
This is not America, avec qui, Luc? This is not America. Guitariste...
Nicoletta.
Non, mais ça aurait été mieux peut-être. Voilà. Ouais. Enfin, un four, quoi.
Un four complet. Les années 80, c'est pas son truc. Hein. Franchement, il revient avec Let's Dance, ce qu'on disait... Son album qui va être quasiment le plus vendu, probablement le plus commercial, probablement un de ceux qui va le... Peut-être pas renier, mais regretter en tout cas.
Moi aussi, oui, il ira jusqu'à le renier. Hein, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il disait, pendant 10 ans, j'aurais mieux fait de me la boucler. Quoi. Pendant 10 ans, il fait 3 albums quand même. Il y a quand même une grande différence avec ce qui se passe avant. Donc il y a Let's Dance en 83. Il y a Tonight dans la foulée qui est peut-être son pire album, où il n'y a que des reprises. C'est dire à quel point il est plus inspiré. Et Never Let Me Down en 87. Qui est une sorte de... Enfin, je ne sais pas, ça pourrait être un exercice de torture pour une guerre à venir. Enfin, c'est quelque chose de merdique à souhait, quoi.
Ouais, il va aussi participer, monter son groupe qui s'appelle les Teen Machines, dont un grand magazine américain, NMI, pour ne pas le citer, va titrer à l'époque « Est-ce que Teen Machine est de la merde ?»
Voilà, et la réponse ce qui veut tout dire. Est « Pas forcément oui ». Mais que c'est quand même pas terrible. Non. Ça n'aurait pas été David Bowie, personne n'aurait acheté l'album aussi. Enfin, 2 albums. Déjà un de trop.
Ouais. Voilà. Il va sortir quelques albums, rien de révolutionnaire jusque-là. Ce qu'on disait, c'est David Bowie des débuts, c'est le suiveur, c'est celui qui va pas réussir à reprendre le dessus un petit peu, à redevenir un leader, un vrai créateur comme il a pu l'être dans les années 70 en lançant le glam rock. Le dernier album de David Bowie sort en 2003, Reality.
Oui.
C'est le dernier album. Il en va de même.
On a peut-être quelqu'un là.
On a quelqu'un qui veut participer au concours.
Avec quand même des écouteurs. Donc c'est quelqu'un qui écoute la radio en ce moment même. Qui prépare un sale coup, je crois. Ah oui. C'est fait.
C'est fait.
Elle pourra venir pour la prochaine émission. En plus, c'est quelqu'un qu'elle adore. On déclare. On dira le nom tout à l'heure.
On dira le nom tout à l'heure.
C'est vraiment quelqu'un qu'elle adore. Donc c'est parfait.
C'est SM.
Voilà. Pour revenir juste à la suite de carrière de David Bowie. Il est un peu, on l'a dit, artiste total. Alors bon, moi je préférais dire artiste touche à tout, parce que total, ça sous-entend qu'il serait bon en tout. Il a un peu peint, mais ça s'est pas trouvé être phénoménal. Hein. Il a fait des films, mais qui se trouvaient être la plupart du temps des daubes. Labyrinthe dans les années 80.
Hein. Doom encore, ça allait.
Entre
guillemets.
L'homme qui venait d'ailleurs, des trucs comme ça. Enfin voilà, il y a Furio un petit peu hein, dans les années 80. Mais bon, qui a aimé Furio hein, à la limite, que les auditeurs vous appellent.
Je le demande. Moi. Qui
C'est quoi Furio, David?
David, c'est quoi?
Je ne sais pas.
Dave.
Non. Dave. Ouais, je lisais France Football.
Ok.
Bref, il a fait tout un tas de choses qui n'étaient pas vraiment intéressantes. La vraie période phare, de toute façon, c'est le début des années 70, le milieu des années 70.
Il a joué dans des séries télé aussi.
Et la fin des années 70.
The Buddha of Suburbia.
Il a joué dans des séries télé un peu pourries aussi.
David est en train d'essayer de lire un bouquin sur David Bowie parce qu'il trouve que l'émission n'est pas assez intéressante et qu'il n'apprend pas assez de choses.
Voilà. Par contre, il faudrait que tu parles devant le micro.
Pardon. Il a eu deux enfants, par contre, dont un qui est aujourd'hui réalisateur de films.
Pourquoi par contre?
Quel est son prénom?
Je ne sais pas pourquoi par contre, mais comment il a quand même eu deux enfants.
Alors il y a un enfant qui s'appelle Zoe Duncan, quelque chose d'autre, non?
Duncan Zoe Haywood Jones.
Voilà, du rapporté. Et maintenant il s'appelle que Duncan parce que justement il voulait percer dans la vie et que c'était difficile.
Oui, il s'appelle Arico. Duncan Jones même.
Tim? Francis Arico Cobain.
Oui, c'est vrai. Oui, on avait eu le cas déjà. Oui. Il y a des problèmes. En fait, on retrouve toujours les mêmes problèmes. C'est des chanteurs qui meurent, qui se droguent et qui donnent des noms d'enfants débiles.
Oui, mais là, David Bowie n'est pas mort. Enfin,
il ne se drogue plus.
On ne sait pas.
Du moins, on ne sait pas.
On attend des nouvelles. David Bowie, si tu nous écoutes.
David, on t'appelle la radio et c'est cool.
C'est d'autant plus étonnant qu'on n'ait pas de nouvelles que, comme le disait David tout à l'heure, qui quand même s'y connaît,
Dave.
Ça fait 10 ans qu'on n'a pas de nouvelles de lui, qu'il n'est pas monté sur scène, qu'il n'a rien fait, alors même qu'il était toujours là, présent dans les esprits. Il n'y a aucun journaliste qui est quand même foutu d'aller le voir, voir où il se trouve, ce qu'il fait, alors qu'il vit en Suisse, il vit un peu partout, et il ne fait rien. Il était même précurseur sur Internet. Dès le début des années 90, il avait son site. Il y avait déjà des gens qui téléchargeaient ses morceaux. En 96, il avait des centaines de milliers de téléchargements en 96. Et aujourd'hui, son site, il est moribond. Il n'y a rien à faire dessus.
Mercato
il y a la traîne.
Il écoute 48 FM, je crois.
Il écoute 48 FM, ouais.
En fait,
c'est déjà ça.
De la Suisse.
Oui. En fait, sa dernière véritable apparition, c'est en 2006, dans une soirée caritative où il a repris Wild is the Wind de Nina Simone. Wild is the Wind.
Traduction, stagiaire.
Oh non, refais-le.
Sauvage et le vent.
Sauvage et le vent.
Sauvage et le vent.
Et
Raffarin à la bonne époque.
C'est sa dernière apparition publique. On sait qu'il a eu son dernier passage en France date de 2002-2003. 2002 dans les arènes de Nîmes, c'est sûr. 2003 à Paris.
2003 annulé pour cause de laryngite notamment, mais bon, sans doute cancer généralisé ou ce genre de choses.
Je prends les paris pour 2005. Voilà.
2004, on sait que 2004, il a fait une crise cardiaque. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne le voit plus trop, finalement, et qui poursuit sa vie tranquille, retirée avec celle qui est toujours sa femme depuis les années 90, qui est Iman, l'ancienne top modèle, avec laquelle il vit depuis tout ce temps-là.
Alors, voilà. Le dernier morceau, justement.
Le dernier morceau. Oui.
On parlait de mort, donc.
On va conclure sur le morceau qui a tué Ziggy Stardust sur scène, Rock'n'Roll Suicide.
Choisi par Sandrine Morin.
Time takes a cigarette. Puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it. Too young to choose it.
and the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, which you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shit breaks the snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but I'm talking only like you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the lies seem to lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not.
Voilà donc pour ce dernier morceau de David Bowie. Alors on va peut-être conclure par la discographie, Fabien.
Oui, alors une petite discographie sélective. Alors mes choix en tout cas se portent vers l'intégralité des années 70, à une exception près qui est Pin-Ups, qui est son album de reprise qui est sorti tout de suite après Aladdin Sane, qui montre un peu une faiblesse d'inspiration vu que c'est des reprises. Sinon, tout est bon. Donc à partir de The Man Who Sold the World, qui a quelques faiblesses, donc Un Kid Ory formidable, Ziggy Stardust formidable, Aladdin Sane formidable. Il y a aussi des albums bien dont on n'a pas parlé, qui sont Young Americans au milieu des années 70, et aussi Diamond Dogs, et aussi Station to Station, la trilogie berlinoise Law, Lodger, Heroes,
ça fait pas mal.
Désordre, et aussi Scary Monsters en 80. Tout le reste, c'est dispensable.
Et Blue Jean ? Non, toujours pas. Hein.
Billie Jean.
Billie Jean.
Ah, non, il y a même. Une non, chanson qui s'appelle Blue Jean. Oui, oui.
Ah, bravo, David.
Bravo. Dave Smith,
mais c'est nul, en revanche.
Ah, pardon. Cinématographiquement, on vous conseillera rien.
Oh.
Allez au cinéma, si, mais
pas les films David Bowie. Pas les films David Bowie. Si, le documentaire sur le dernier concert de Ziggy Stardust.
Voilà, qui est de Monsieur Pennebaker, qui avait déjà réalisé le film sur la tournée 66 de Dylan, Don't Look Back.
Pas mal.
Grand documentariste.
Très beau.
Voilà pour... oui, David.
Non, plus de documentaires, finalement, et c'est vrai, que de films sur... David Bowie.
Excellente intervention. Non, mais
très
vraiment,
bonne intervention.
Il a fallu qu'on attende.
En fait, on devrait faire une émission de 2h30, ça serait
Il clair. A fallu qu'on attende 76 minutes pour avoir une intervention intéressante.
Il y a aussi quelqu'un qui est entré dans le studio et qui avait prononcé le mot de paillade. C'est peut-être ça.
Ah oui, il reste 14 minutes avant la fin du match.
Ouais.
Luc ?
Oui.
Il y a un match, hein ?
Alors, tout ça pour dire que ça n'est fini avec David Bowie. Que non, Dave, nous ne ferons pas notre prochaine émission sur les chants des supporters de la butte paillade. Hein, même si je sais que tu meurs d'envie de nous en faire un petit coup.
Ici c'est la paillade, ici c'est la paillade. Allez,
Ludo, tu peux couper son micro s'il te plaît.
Non, mais on va le remercier. Merci David, on t'invite pour la prochaine.
Merci.
On apprend beaucoup de choses dans cette émission, et c'est vrai.
Et on va vous laisser avec un petit extrait du sujet de notre prochaine émission.
De l'artiste à venir, qui lui-même est mort.
Oui,
et qui lui-même se droguait.
On va renouer encore. Avec les artistes morts qui se droguaient.
Renouer, on n'avait pas complètement abandonné le sujet.
Mais c'est vrai.
Non plus.
Comme quoi, la drogue ne sert à rien finalement, quoi.
Hein, non, la drogue,
ça amène à la mort, donc c'est pas bien.
C'est ça.
La drogue, c'est de la merde.
C'est pas beau.
Voilà, message à l'intention.
Oui,
des
message
jeunes
aux jeunes et aux moins jeunes même.
Voilà. On va ranger les 14 canettes que tu as.
Tous les enfants de la chance qui n'ont jamais commencé cette émission.
On va ranger les 18 canettes que David a vues pour l'émission.
Et donc, qui est l'artiste qui est à venir, lui ?
Alors.
Eh bien, cet artiste, un artiste américain, c'est le mythique Johnny Cash.
Allez, merci de nous avoir suivis. Salut.
Merci, au revoir.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire. FM. 48 FM.